c'est la revue de presse des Hebdo et on retrouve notre chère Arlette. Salut Arlette.
Salut Léo, bonjour à tous et à toutes.
Alors je profite de la première revue de presse des Hebdo de l'année pour te souhaiter, ma chère Arlette, une merveilleuse année 2023.
Oh merci.
Que tu commences en étant malade.
Pas tout à fait. Je suis... j'ai plus de voix, mais enfin bon, vous allez faire avec et moi aussi.
Bon, on est tous malades pour ce début d'année. Vaut mieux maintenant que pendant les fêtes.
Absolument, je suis d'accord avec toi.
Alors Arlette, quoi de neuf au canard? Des vœux pour 2023?
Mais pas du tout. Le palmipède est bien trop réaliste pour souhaiter le meilleur quand il traque le pire. Alors comme chaque semaine, les canetons, cancanes, en ricanant. Pour les boulangers, comment faire du pain si on nous réclame tellement de blé? L'édito est consacré aux retraites. Le sujet déchaîne toujours les pensions. À la une, quelques articles bien urticants sur l'école. Celui sérieux et affligeant sur les effectifs au collège, au lycée, sur les carrières des enseignants. Et plus étonnant, celui intitulé « Uniforme, mode d'emploi ». Quand le prix de l'énergie, la réforme des retraites, Poutine et sa sale guerre en Ukraine. Enfin, quand les sujets brûlants de notre actualité nous inquiètent, le RN, lui, est préoccupé par les vêtements que doivent porter les élèves. Lors de sa niche parlementaire, Marine Le Pen a choisi de débattre de son projet de loi sur le port de l'uniforme dans les écoles et collèges publics. Et les députés Renaissance macronistes se disputent et réfléchissent eux aussi sur ce sujet brûlant. Le vote est-il l'alpha et l'oméga de la démocratie? Cette question étonnante interroge la France insoumise. Qui répondra? Jean-Luc Mélenchon ou Mélenchon Jean-Luc? Mais le scandale le plus énervant, vous le découvrirez en dernière page. Complètement timbré, l'article signé Jean-Luc Porquet met en lumière la stupidité de la suppression du timbre rouge. Ils ont bâti une délirante usine à gaz brinque-ballante qui les fait se gondoler. Alors lisez cet article impitoyable, signez vite la pétition.
D'accord. Bon, alors passons à la lecture de courrier international, peut-être plus optimiste.
Pas vraiment. Alors sur la couve, méga menace, le dessin de Nishan Choksi du Royaume-Uni, un tank conduit par un soldat qui porte un masque sur un bout de banquise flottant sur une eau où se noie un ours dans l'air voltige des billets. Alors déjà bien précise et explicite, le titre enfonce le clou. Et c'est aussi l'incipit de l'édito de Claire Carrard. Dérèglement climatique, guerre, pandémie, inflation. Elle poursuit Claire Carrard. Le moins que l'on puisse dire, c'est que 2023 ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Pour notre premier numéro de l'année, nous aurions aimé vous renvoyer un autre écho du monde. Mais en trois semaines, depuis notre dernière parution le 15 décembre, l'actualité des crises n'a pas faibli. Le 1er janvier, la directrice générale du Fonds monétaire international a prédit sur CBS une année 2023 plus difficile que l'année précédente et avertit qu'un tiers de l'économie mondiale sera en récession. L'économiste américain Nouriel Roubini plaide pour une coopération mondiale afin d'éviter un scénario dystopique. Le monde est entré dans ce que j'appelle une dépression géopolitique qui comporte au moins quatre puissances révisionnistes dangereuses, la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Nous cumulons les pires facteurs des crises survenues dans les années 1970, puis en 2008, estime-t-il, en citant pêle-mêle le risque d'un Armageddon nucléaire, la montée des populismes, la crise de la dette, les bouleversements massifs du changement climatique. Plus optimiste, le politologue canadien Thomas Homer Dixon et l'écologue suédois Johan Rockström estiment que, dans le New York Times, qu'il est encore temps de renverser la situation en créant un consortium scientifique mondial privilégierait, on va dire les choses correctement dans ce début d'année, une vision plus holistique de la polycrise qui frappe la planète. Le tableau paraît sombre, mais l'invitation à penser autrement ce début d'année qui est en soi suffisamment stimulante. Alors c'est le thème plus positif, en fin de compte, que le titre le laisse supposer. Pourquoi il faut penser global? C'est la piste suivie par les chroniqueurs à la une, en page 24. Avant de sombrer dans la déprime, lisez donc ce dossier qui nous laisse un tout petit espoir.
L'Express nous propose en couverture le portrait de Philippe Martinez, leader de la CGT, avec la légende CGT, l'enquête intégrale.
Eh oui, la CGT est la vedette de ce numéro, qui comme d'habitude est très varié, très complet. Des morts, Benoît XVI et le roi Pelé, au décryptage des rançongiciels, du décryptage scientifique, vaccins, tests rapides, oxygénération, au conseil d'Anthony Bondin de zonebourse.com, l'entreprise à suivre, si vous voulez faire des bénéfices, écoutez-moi. Colten, fournisseur de référence des cabinets dentaires, cap sur une petite entreprise suisse qui conçoit, fabrique et distribue des consommables et du petit équipement pour les cabinets dentaires, ça rapporte. L'Express balaye l'actualité très largement. Mais cette semaine, trois de ses chroniques sont consacrées à la CGT, donc. D'abord, l'enquête intégrale, où d'entrée, l'Express interroge le recul de l'âge de départ à la retraite. Peut-il embraser les ronds-points ? Les organisations syndicales veulent le croire, mais les Français pensent surtout à leur porte-monnaie. C'est ce qu'espère l'Express, à mon avis. C'est dans le dossier que la CGT est très précisément examinée. CGT, quand les langues se délient. Le bilan de Martinez, vandalisme et guerre idéologique. Adhésion en chute libre, résultat en demi-teinte dans les élections professionnelles, guerre de succession, opacité financière. Derrière les coups de menton de Philippe Martinez, un syndicat à la dérive. Ce récit est suivi dans l'épisode 2 par un syndicat sans vision stratégique, miné par des guerres internes idéologiques d'un autre temps pour la majorité des salariés. Une organisation où la violence de la société transpire dans les joutes internes et où les haines recuites annihilent la mission. Pour reprendre pied et montrer qu'elle peut gagner les combats, la CGT va s'emparer du dossier de la réforme des retraites et user du pouvoir de nuisance qui lui reste dans les transports, les services publics ou l'énergie pour faire plier le gouvernement. Le dernier combat pour Philippe Martinez, la mère des batailles pour Emmanuel Macron, les deux ont beaucoup à y perdre. Ben chouette, parce que nous, on est au milieu. Hein.
Un peu de légèreté à la une du 1, il s'agit de quoi ?
Comment vivre plus léger, interroge le 1 hebdo. Je vais me contenter de vous donner les titres de chaque article de ce premier numéro de l'année qui prend de la hauteur avec légèreté. Une danseuse nous parle de défier la gravité pour s'élever. Thierry Lestrade a enquêté sur le jeûne. Jeûner pour s'élever. Pardon. Louis Chevalier décortique le mot léger. Olivier Ponton, philosophe, commente le concept de la légèreté. Ce qui est bon est léger. Tout ce qui est divin court sur des pieds délicats. C'est, nous rappelle-t-il, le premier principe de l'esthétique et de la morale de Nietzsche. Dans son article, vous croiserez aussi les noms d'André Comte, Sponville, Jérôme Poré, Kundera, en Jonas, tous plus philosophes les uns que les autres, et tous ont pensé la légèreté à un moment ou à un autre de leur travail.
Télérama, une nouvelle année, une nouvelle direction à la tête du magazine culturel de notre revue de presse.
Fabienne Pascaud cède son fauteuil de directrice de rédaction à Valérie Hurier. 17 ans, c'est une belle carrière. Dans ce dernier numéro, sous sa houlette, les femmes sont à l'honneur. L'actrice Penélope Cruz est l'invitée de la semaine. En page 11, une nécro sur la première dame du mouvement punk, Vivienne Westwood, disparue à 81 ans. Elle fut aussi une créatrice de mode vraiment déjantée. Elle revêtait, selon Sophie Berthier, des oripeaux de luxe importables qui étaient le gage d'une allure folle, digne d'une lady. Titre que lui avait décerné la reine Elisabeth en 2006. Le dossier nous présente six jeunes femmes qui pensent le monde de demain, droit public, en histoire ou en sciences de l'éducation. Sabine Kéris, doyenne de juge d'instruction, incarne la nouvelle juridiction nationale, le pôle Cold Case, ou Affaire froide en anglais, entièrement consacrée aux crimes sériels et non élucidés. Et encore, Téléma nous rappelle qu'il y a 20 ans disparaissait Monique Wittig, écrivaine et militante féministe et lesbienne, et alsacienne de naissance. À 12 ans, elle proclamait déjà « Je n'aurai pas une vie de femme qui sert un homme ». Avant-gardiste et très politique, les textes de Monique Wittig interrogeaient déjà le genre il y a plus d'un demi-siècle. Sa radicalité révolutionnaire inspire toujours. Et enfin, Mieke Bahl, intellectuelle néerlandaise. Elle est titulaire cette année de sa chaire « L'invention de l'Europe par les langues et la culture » au Collège de France. Dans son discours inaugural, elle évoquait son rêve culturel, son idéal. C'est celui d'une Europe qui ose rester plurielle. Son parcours est marqué par l'interdisciplinarité, qui est pour elle un refus des dogmatismes méthodologiques inculqués dans chaque discipline. Alors ce numéro est, j'espère, le reflet d'une véritable prise de conscience de la presse. Les femmes, leurs talents, leurs compétences sont bien réelles dans tous les domaines de la société et il faut qu'elles restent visibles, autant que les hommes, ni plus ni moins.
C'est ton souhait pour 2023 ?
Alors j'en ai un autre. Je voudrais bien que dans tous les hebdos, le dérèglement climatique soit l'objet d'une info, d'une enquête, d'une chronique, d'une image, chaque semaine, toutes les semaines. Il faut que nous restions informés le mieux possible sur ce dérèglement, tenus en alerte, afin que nos inquiétudes pèsent et obligent les gouvernants à mettre en place les solutions qui existent, quoi qu'il en coûte. La juste place des femmes dans tous les secteurs de la société et le dérèglement climatique prioritaire sur tout le reste, c'est ce que je vous souhaite pour 2023.
Et Rob Bresny ne se contente pas de souhaiter, il prévoit, il lit l'avenir dans les étoiles. Celui des Capricornes cette semaine.
J'ai tout le temps le mal du pays, confie la romancière américaine Sarah Addison Allen. Mais je ne sais pas où est mon pays. Il a cette promesse de bonheur quelque part au loin, je le sais, je le sens même parfois, mais ça la revient à vouloir attraper la lune. Quand je crois la tenir, elle disparaît à l'horizon. Si tu as jamais éprouvé pareille frustration, Capricorne, ce sentiment se dissipera en 2023, car tu commenceras à identifier plus clairement l'endroit où tu te sentiras chez toi dans ton pays. Alors il te sera possible de trouver et de créer le foyer, le pays et la communauté où tu connaîtras une paix éclatante et une stabilité retentissante.
Campus Burdo
88.1 Radyosunda 88.1'desiniz.